Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous. Après la décision de l'Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a critiqué cette décision d'Alger. Le Maroc, dit-il, regrette cette décision totalement injustifiée mais attendue au vu de la logique d'escalade constatée ces dernières semaines ainsi que son impact sur le peuple algérien. Le ministre poursuit en ces mots. Il rejette le Maroc catégoriquement les prétextes fallacieux, voire absurdes, qu'il a sous-tendent. Voilà pour ce qui était de ces propos du ministre marocain des Affaires étrangères. La Tunisie, avec cette affaire complexe, mais qui est une grosse affaire, la Tunisie qui a décidé de renforcer sa sécurité à la frontière sud-est avec la Libye. Ceci fait suite à une affaire préoccupante d'une tentative de mouvement de Tunisiens qui seraient actuellement en Libye sur la base aérienne de Al-Watiya, qui aurait combattu durant la guerre civile et qui aujourd'hui aurait le projet de revenir en Tunisie pour s'attaquer aux représentants de l'État, aux forces de sécurité. Qu'en est-il exactement de la réalité de ce projet ? On sait qu'il y a des Tunisiens qui sont actuellement en Libye. Oui, ils ont combattu. Les experts les évaluent aux alentours de 2000 hommes. Ont-ils réellement ce projet de revenir ? On sait qu'il y a eu cette note qui a été rendue publique. Un câble d'Interpol Tunisie indiquant que des centaines de terroristes, fermés les guillemets, de la base de Watiya avaient l'intention de s'infiltrer en Tunisie. Ce qui explique donc la décision du palais de Carthage de renforcer sa sécurité sur le flanc sud-est de sa frontière avec la Libye. Et cette information, toujours concernant la Tunisie, mais qui n'est pas en lien et en rapport direct avec ce que nous venons d'évoquer concernant la Libye, le ministère tunisien de l'Intérieur a annoncé la nomination d'un nouveau directeur général des unités d'intervention. Il s'agit de Mohamed Sebti Arfaoui. En Mauritanie, cette opération anti-drogue, cela s'est passé dans le quartier Sokometal, donc on est sur le secteur ouest de Nouakchott. Une unité de police a encerclé une maison, vraisemblablement d'un homme qui était, ou de plusieurs hommes, qui étaient à l'origine ou les acteurs d'un trafic de drogue. Pour l'instant, les autorités sécuritaires mauritaniennes n'ont pas encore communiqué sur cette opération. Et en Mauritanie toujours, cette décision de justice qui revient à la cour d'appel de Ouagadougou et qui fait suite d'un mouvement de colère qu'il y avait eu dans le pays. Des habitants se plaignaient d'usage de produits toxiques à proximité de mines dans la ville de Bir Morgrain. Eh bien, ces habitants ont obtenu gain de cause. La cour d'appel de Ouagadougou leur a donné raison de telle façon à ce que les pollutions qui étaient engendrées par cette activité industrielle cessent le plus rapidement possible et que celles-ci, que ces activités industrielles trouvent une solution autre pour pouvoir continuer leurs activités sans importuner l'environnement des habitants. Une journée de tension en Palestine avec le déploiement de forces israéliennes aux abords de la bande de Gaza. Des manifestations sont prévues, ceci en critique à la montée de tension de ces derniers jours. Il y a eu ces ballons incendiaires qui ont été lancés vers Israël mardi dernier. Ceci en réponse à une attaque de l'aviation israélienne qui a frappé la bande de Gaza. Les Israéliens qui analysent la situation en coopération avec les Égyptiens estiment que ce n'est peut-être pas le Hamas qui est la faction palestinienne qui souffle le plus sur les braises, mais ce serait plutôt le djihad islamique ou d'autres factions de moindre importance, mais qui auraient le plus la volonté de faire monter la tension entre la bande de Gaza et Israël. Les premières images nous sont parvenues hier d'Afghanistan, de la vallée du Panjshir. Ce sont des images de combats, alors des combats qui sont encore de faible ampleur, parlerons plutôt d'accrochage, mais en tout cas des tirs des RPG, des tirs de mitrailleuses, des tirs d'armes légères qui ont été échangés entre des hommes qui sont des talibans et les forces qui sont demeurées fidèles à Ahmad Massoud qui tient la vallée du Panjshir à la tête de l'Alliance du Nord. Il y a aujourd'hui une véritable montée en tension, même si officiellement négociation il y aurait entre les deux parties pour arriver à un règlement, que la vallée du Panjshir, qui a toujours affirmé son indépendance, trouve le moyen de coexister avec les talibans qui, eux, veulent contrôler l'entièreté de l'Afghanistan. Mais c'est vrai qu'on a des éléments du terrain qui sont inquiétants. Par exemple, on apprend là cet après-midi qu'il y a une tranchée qui est en train d'être creusée de telle façon à ce que les forces qui défendent le Panjshir puissent s'y poster pour faire face à une éventuelle avancée des forces et des troupes talibanes.
Ce proche Proche-Orient si loin de nous.
Notre escale du jour nous mène aujourd'hui en Irak avec cette problématique qui est liée à la pandémie de coronavirus. Des millions de musulmans chiites venus du monde entier se retrouvent chaque année à Karbala pour commémorer le meurtre de l'imam Hussein. Cette année, on est dans un contexte de restrictions pandémiques tout à fait significatives, ce qui fait que seul un petit nombre de pèlerins a pu entrer en Irak pour assister aux cérémonies dans la ville de Karbala ainsi que dans la ville de Najaf. Cette fête de l'Ashura se déroule pendant 2 mois. Il y a beaucoup d'entrepreneurs irakiens qui souhaiteraient que le gouvernement ouvre ses frontières à tous les pèlerins, à la fois pour une question religieuse, de sensibilité religieuse, mais également aussi pour faire vivre l'économie irakienne qui voit là quelques subsides qui lui permettent de faire tourner son économie. Donc c'est important d'un point de vue spirituel d'abord, mais aussi d'un point de vue économique. Le Pakistan a fait des demandes de visas qui ont été pour le coup accordées, mais c'est vrai que moins de visas que d'habitude ont pu être autorisés. Là, ce sont des visas spécifiques qui ont été créés pour les pèlerins chiites qui demandent à se rendre en Irak. En juillet dernier, l'Iran a demandé 1 million de visas pour le pèlerinage parce que sa première demande de visa, c'était une demande d'exemption totale de visa qui était réclamée par Téhéran. Ça, c'est pas possible. L'Irak a dit non, il faut un visa. Donc, c'est une somme de 1 million de visas qui est demandée. Donc, il faut organiser tout cela et c'est compliqué. Est-ce que Bagdad va décider de le faire ou pas? Parce que Bagdad est en proie aujourd'hui à une nouvelle vague de pandémie qui risquerait d'augmenter de façon significative s'il y a à la fois ces flux de fidèles chiites qui donc viendraient en Irak et puis également il faut se mettre dans la perspective du 27 septembre prochain de la cérémonie d'Arbaïn qui est une période tout à fait importante, une période symbolique, c'est le 40e jour après l'Ashura. Là encore, des millions de pèlerins chiites voyagent souvent à pied vers Karbala, donc l'Irak habituellement accueille chaque année en période normale 20 millions de touristes durant cette période religieuse, de fêtes religieuses et de commémorations. Donc comment faire pour organiser à la fois le culte et puis parallèlement à cela garantir la sécurité sanitaire de tous ceux qui viendront s'ils ont l'autorisation de venir? C'est aujourd'hui un véritable casse-tête pour les autorités de Bagdad. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.